Merci d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
L'heure de retrouver, comme tous les soirs, votre journal en français facile, avec à la une cette course contre la montre partout dans le monde pour trouver un vaccin contre le coronavirus. Sur la douzaine d'essais autour de la planète, 5 sont en cours en Chine, où les essais sur des humains continuent. On fait le point dans un instant. La Chine qui, selon la présidente de la Commission européenne, est à la fois un partenaire et un concurrent. Déclaration en marge du sommet d'aujourd'hui entre Pékin et Bruxelles. L'Union européenne a exprimé son impatience de voir l'économie chinoise s'ouvrir davantage aux entreprises européennes. À la une également, Emmanuel Macron qui dénonce, je cite, « le jeu dangereux de la Turquie engagée aux côtés du gouvernement d'Union nationale en Libye et puis l'épidémie de coronavirus qui s'accélère ». Le monde a dépassé les 9 millions de cas et le Brésil a franchi hier soir la barre des 50 000 morts. On fera le point dans ce journal sur la situation dans le pays.
Le journal en français facile.
Avec un nombre record de nouveaux malades du coronavirus enregistrés hier, 183 000 de plus en 24 heures dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé prévient la pandémie de Covid-19 continue de s'accélérer. Pour soigner les cas les plus graves, l'OMS a appelé aujourd'hui les pays à augmenter leur production de dexaméthasone. Des chercheurs britanniques ont montré la semaine dernière que ce médicament réduisait la mortalité des malades. Pendant ce temps, la course au vaccin continue elle aussi. En Chine, les chercheurs de l'Académie de médecine ont entamé hier une deuxième phase d'essais humains, comme 3 autres laboratoires chinois qui travaillent également sur un vaccin. Mais pour l'instant, difficile d'aller plus loin, car la Chine n'a pas assez de cas pour passer à des tests à grande échelle. Stéphane Lagarde.
5 vaccins contre le coronavirus sont en cours d'essais cliniques. En Chine, 3 d'entre eux ont terminé leurs essais de phase 2, selon le ministère chinois des sciences et des technologies. Ce devrait être aussi le cas bientôt pour le vaccin mis au point par l'Institut de biologie médicale de l'Académie chinoise de médecine, qui a commencé ce week-end des tests sur les doses à prescrire. Pour la suite, en revanche, c'est plus compliqué. À Pékin, les nouveaux cas de contamination se comptent sur les doigts de la main, nous dit Tao Lina, expert en vaccin, joint par téléphone à Shanghai.
Nous ne pouvons pas passer à la phase 3, tout simplement parce que le nombre de contaminés est insuffisant. Même à Pékin, le taux d'infection est trop faible. Nous devons donc travailler avec des pays confrontés à un plus grand nombre de cas.
Afin d'évaluer si le vaccin peut sans danger provoquer des défenses immunitaires chez des personnes en bonne santé, ces tests à grande échelle sont nécessaires. 9000 volontaires devraient ainsi participer à l'essai de l'entreprise biopharmaceutique chinoise Sinovac au Brésil.
La courbe des contaminations continue de croître au Brésil et je pense qu'il faudra 2 mois pour comparer les tests entre ceux qui ont été vaccinés et ceux qui se sont vus administrer un placebo. Si cette phase 3 au Brésil se passe bien et si on est optimiste, un vaccin pourrait être prêt en octobre.
Un vaccin pour la fête nationale chinoise le 1er octobre, on peut rêver. L'événement est en tout cas très attendu, sachant que beaucoup redoutent une deuxième vague de pneumonie virale à l'automne. Stéphane Lagarde, Boussan, RFI.
La Chine qui participait aujourd'hui à un sommet virtuel avec l'Union européenne. Une franche explication sur une relation difficile. Les Européens ont notamment exprimé leur grave préoccupation pour Hong Kong, alors que Pékin veut y imposer une loi de sécurité nationale. Ils ont appelé les Chinois à tenir leur promesse d'ouvrir davantage leur économie. Et même si le Premier ministre chinois assure que l'UE est d'abord un partenaire avant d'être un concurrent, Bruxelles demande des avancées sur l'accord d'investissement en négociation depuis 2014. Une rencontre que les États-Unis ont suivie de très près. Washington met la pression sur l'Europe pour qu'elle ne se rapproche pas de Pékin. Mais les Européens ne devraient pas céder, selon le politologue Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.
Il est pour le moins paradoxal que les États-Unis, qui depuis 2016 n'ont pas réellement considéré les Européens comme des alliés, que l'on consulte ou que l'on informe, tout d'un coup les appellent à secours dans le bras de fer qu'ils ont à l'égard de la Chine. Les Européens ont des reproches à faire à la Chine, notamment sur le plan commercial, mais la querelle de plus en plus vive entre Washington et Pékin qui vise la suprématie mondiale n'est pas un problème européen. Nous n'avons pas à choisir entre les deux, nous avons à déterminer nos propres intérêts qui s'élaborent dossier par dossier. Il y a des dossiers sur lesquels nous sommes plus proches de la Chine, notamment par exemple sur la protection du climat, d'autres sur lesquels nous sommes en concurrence, mais nous n'avons pas à agir en fonction des desiderata et des principes de Washington, mais bel et bien en fonction de priorités définies par les Européens eux-mêmes.
Propos recueillis par Vincent Souriau, toujours au chapitre diplomatique, ces propos d'Emmanuel Macron sur la Libye. Le président français tenait ce soir une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec le président tunisien Kaïs Saïed. Il en a profité pour critiquer une nouvelle fois l'action de la Turquie qui soutient en Libye les troupes du gouvernement d'Union nationale face à l'offensive du maréchal Haftar. La Turquie joue un jeu dangereux, dit Emmanuel Macron, qui demande la fin des interventions étrangères en Libye. Ce week-end, la Turquie accusait de son côté la France de soutenir les troupes du maréchal Haftar. Pour en revenir à la pandémie de coronavirus, je vous parlais en début de journal de ce nombre record de nouveaux cas enregistrés dans le monde. Les chiffres sur une semaine sont aussi inquiétants. L'OMS a recensé 1 million de nouveaux cas en seulement 8 jours et le deuxième pays le plus touché du monde a dépassé les 50 000 morts. Le Brésil est devenu le principal foyer de l'épidémie en Amérique du Sud. Il faut dire que le président Jair Bolsonaro, souvent comparé à Donald Trump, n'a pas fait grand-chose pour freiner la propagation du virus. Il y a encore quelques semaines, il continuait de le qualifier de petite grippe, Romain Lemaresquier.
Le Brésil a enregistré officiellement 641 décès supplémentaires ces dernières 24 heures. Désormais, le pays compte au total 50 617 morts des suites du Covid-19. La situation ne fait qu'empirer et avec 1 100 000 personnes infectées et un système sanitaire totalement saturé, l'épidémie devrait continuer à se propager dans les semaines à venir selon de nombreux experts. Des experts qui estiment d'ailleurs que les chiffres communiqués sont bien en dessous de la réalité du fait de l'absence de campagne de dépistage. Cette aggravation de la situation est en grande partie due au manque de réaction des autorités. Le président Jair Bolsonaro refuse d'assumer la gravité de la situation, ce qui provoque des remous dans la classe politique. Deux ministres de la Santé ont quitté leur poste depuis le début de la pandémie et actuellement aucun titulaire n'a pris les rênes du ministère le plus concerné par cette crise. Des manifestations se sont d'ailleurs tenues dans le pays ce week-end avec des partisans du président d'un côté et des opposants de l'autre. Pendant ce temps, l'économie brésilienne est en train de subir les conséquences d'un pays paralysé et si la situation avant le début de l'épidémie était déjà inquiétante. Beaucoup s'attendent désormais à un effondrement économique du pays.
Romain Lemaresquier. Et puis en France, la situation est nettement plus calme. Les hospitalisations et le nombre de cas graves de Covid ont encore une fois baissé aujourd'hui. Les cinémas ont rouvert ce matin et après 6 semaines de reprise partielle des cours, tous les écoliers et collégiens étaient appelés à retourner en classe ce lundi. La plupart d'entre eux n'y avaient pas remis les pieds depuis 3 mois et avaient dû se contenter de faire l'école à la maison. Ce matin, Laurence Théo est allé tendre son micro à quelques élèves du collège Claude Bernard à Paris. Reportage.
Elles se tiennent bras dessous, Eva et Noémie. Élèves de 6e ont une motivation commune, retrouver leurs camarades de classe.
Bah oui, ça me permettra de leur dire au revoir et tout ça, parce que après peut-être que je pars en vacances, du coup bah, je les verrai plus.
Surtout que ça fait 2 mois ou plus qu'on ne voit pas, donc là c'est vrai qu'on est content de se revoir.
Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, l'a rappelé, chaque jour d'école compte, mais tard, en jogging et basket siglé, n'est pas convaincu.
C'est pour continuer le programme, pourquoi pas, mais en vrai, le conseil il est déjà passé, c'est 2 semaines de cours, enfin, ça ne sert pas à grand-chose.
Le masque engloutit un visage rond et ne laisse apparaître que 2 prunelles bleues. Ethan est content de retrouver le collège.
Surtout pour retrouver tous les cours, parce qu'on avait des cours comme art plastique, musique, dont on n'avait pas, et ça c'est important.
Le masque abaissé sous le menton, Nicolas cède de ses mains pour préciser sa pensée. Il s'inquiète de la circulation du virus, puisque les élèves ne seront plus en petits groupes.
Il y a toute la classe, tout le temps dans la même salle, et on va forcément être collé avec un autre élève, et du coup forcément, si jamais il y en a un qui est malade et qui éternue sur son ami, il va être infecté.
Les portes du collège se referment, alors que quelques élèves retardataires arrivent sans se presser.
Laurence Théo devant le collège Claude Bernard à Paris ce matin. C'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver et le lire sur le site d'RFI Savoir. On s'y retrouve quand vous voulez.